Cet épisode est sponsorisé par User Testing. User Testing est une solution de collecte de retours utilisateurs et d'insights clients. Dans ce podcast, on parle souvent de la nécessité de tester son produit pour savoir ce qu'en pensent réellement les utilisateurs. Avec User Testing, vous pourrez facilement recruter vos clients et des utilisateurs pour tester vos interfaces, que ce soit un site web, une application ou même des maquettes. Les retours obtenus sur User Testing vous permettront de savoir ce que pensent vraiment vos utilisateurs de vos interfaces et de prendre les bonnes décisions d'évolution pour vos designs. Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible.
Salut, c'est Gauthier Zimmermann. Il y a quelques années, j'ai décidé de changer de métier et de devenir product designer. Quand j'ai pris mon nouveau rôle, j'avais des doutes et des questionnements sur mon choix. J'ai alors rencontré des designers de tous horizons pour apprendre de leur parcours et de leur expérience. C'est grâce à leur histoire que j'ai pris confiance en moi. Je me suis nourri de leur expérience pour progresser dans mon métier. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun ait cette opportunité, grandir en apprenant des histoires des autres. Dans ce podcast, tu vas profiter un mardi sur deux du recul et des réflexions des meilleurs mentors design. Leur parcours est unique, il t'aidera sûrement à construire le tien. Profite de cette discussion pour choisir les conseils qui seront le plus utiles dans ta carrière. Bonne écoute !
Vincent, sois le bienvenu dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Je suis ravi de te recevoir parce que... On va parler d'icônes aujourd'hui, on va parler de Streamline que j'ai utilisé il y a très longtemps quand j'ai commencé ma carrière de designer. Donc je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour pouvoir discuter un peu de tout ça et parler avec la personne à l'origine de ce set d'icônes. Avant qu'on ne parle justement d'icônes et qu'on rentre dans le vif du sujet, Vincent, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît ?
Bonjour et merci de m'inviter Gauthier et merci d'être un utilisateur de mes icônes Streamline. Je m'appelle Vincent Lemoyne, je suis originaire de Bretagne, j'étais étudiant à Rennes et puis j'ai commencé là-bas en 1998 dans une start-up à l'époque qui s'appelle Le Village, levillage.org. Et donc, je continue un petit peu à présenter toute mon histoire ou c'est...
Eh ben, écoute, je sais que tu vas le faire parce que j'ai revu d'autres podcasts venant de toi. Du coup, la question, c'est plus, vu que tu attaquais dans le vif du sujet, c'est moi, j'aimerais bien d'abord savoir comment tu en es venu à faire du design parce que c'est pas forcément évident dans ton parcours parce que toi, tu as commencé par un bachelor en histoire.
C'est ça.
Et après, tu es devenu web designer. Donc, j'aimerais bien savoir un peu déjà comment tu en es venu à faire cette transition. Et après, on parlera de design pur et d'icône.
D'accord. OK. Donc... Comment je suis devenu designer alors qu'en fait j'étais étudiant en histoire? J'ai une maîtrise d'histoire qui a été consacrée à la guerre du Golfe, à la couverture médiatique de la guerre du Golfe. Ouais. Je crois que c'est en 1995 ou 96 à la fac de Villejean où j'étais, Rennes 2. Je passe dans un couloir et je vois des ordinateurs en libre service avec dessus un logiciel qui s'appelle Photoshop. Et à l'époque, je voulais devenir plutôt DJ. Okay. House DJ, truc comme ça, et j'étais pas très bon, donc j'ai pas fait carrière, mais par contre j'étais passionné par tout ce qui était flyer, tout ce qui était l'esthétique autour de la techno, de la house, tout ce côté futuriste. Et là je m'aperçois qu'il y a Photoshop en libre service gratuitement, ils avaient dû acquérir les droits, et je passe mes premières heures à rien comprendre au logiciel. J'ai dû mettre 2 heures à faire quelque chose, enfin on n'y comprend rien, les layers, tout ça. Et puis, ça y est, j'ai compris que je pouvais moi aussi faire des flyers comme tous ceux que je voyais qui me fascinaient, qu'on trouvait dans les bars. Et j'ai commencé par passion et par créer des flyers pour des copains. Okay. Sur du Photoshop bien craqué comme il faut. Et puis, c'est parti de là et je me suis rendu compte que c'était possible d'en faire un métier. Et voilà, j'ai demandé à l'époque, après ma fac d'histoire, est-ce que j'avais les droits à faire une formation ? J'ai eu droit à 3 semaines payées par l'État, 1 semaine sur Illustrator, 1 semaine sur Express à l'époque, 1 semaine sur Photoshop, et voilà, j'étais lancé.
Super, et après, l'histoire du village.org, c'est assez marrant parce que tu es devenu web designer en faisant du covoiturage, c'est ça ?
C'est ça, ouais, entre Rennes et Fougères, je rentre à la maison, je tends le pouce, un gars s'arrête. On était en 1998, je crois, et puis il me dit « Tiens, qu'est-ce que tu fais ?» Bah, moi, j'adore faire du design. Il me dit « C'est formidable, écoute, nous, on est une communauté. » À l'époque, c'était récent, hein, c'était une communauté francophone basée sur Linux, l'open source, où le concept du village, c'était que c'était les villageois, les utilisateurs qui créaient tout eux-mêmes, qui créaient les sites web, qui avaient même un magazine qui était fait par les villageois. Et c'était un truc génial. Et il me dit, écoute, si tu veux, demain, tu viens, mais il faut amener ton ordinateur avec toi. Tu peux nous aider.
Et donc, c'est comme ça que tu deviens web designer.
J'ai commencé comme ça, voilà. J'arrive avec mon ordinateur, un bon gros PC à l'ancienne, il me donne un tabouret. Je m'installe dans un coin et je commence à travailler.
Trop bien. Et du coup, tu fais ça pendant 3 ans, c'est ça?
Je crois, ouais, jusqu'en 2001, c'est ça.
Ok. Et pendant ces 3 ans, tu fais quoi? Tu fais on va dire du web design classique, ou il y a des choses un peu intéressantes, ou des choses que tu découvres à ce moment-là?
J'étais le maire du village 3D. Il y avait un village en 3D. C'était une technologie qu'on voit un peu maintenant, où les gens pouvaient avoir des avatars et il y avait un monde virtuel. Et puis on faisait un peu tout. Hein. C'était une start-up un peu chaotique, mais très passionnante, où on pensait qu'on allait changer le monde. Et un des trucs que j'ai fait, donc je faisais du design, je m'occupais de faire les pages web. On avait notre propre magazine qui était diffusé en librairie, qui était diffusé en librairie en France, en Suisse, en Belgique, même au Québec, je crois. Donc je m'occupais également de la mise en page. Et puis maire de village 3D, où je faisais de la modération, personne ne savait qui j'étais. Donc un peu tout, on faisait un peu tout, ça c'est ça qui était génial.
Cool. Et qu'est-ce qui fait que tu décides de partir au bout de 3 ans?
Écoute, j'étais pas d'accord avec la direction que prenait la société. Okay. Donc j'ai discuté avec mon patron à l'époque. J'ai dit, bon, écoute, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu fais, mais c'est ta boîte. Et puis c'est toi qui décides. Donc, mais on est resté en bon terme. Je lui ai dit, moi, je vais partir ailleurs et je vais continuer ma carrière ailleurs. Voilà. Okay.
Et c'est là où tu deviens freelance, c'est ça?
Bah oui, c'est là. En plus, c'était crack de 2001, donc pas de boulot. Ouais. J'essaie de me faire embaucher, personne ne voulait de moi. J'ai commencé par faire des tickets de loyalty card, comment dire, des cartes de fidélité pour la boulangère dans ma rue, tu vois, ce genre de choses.
Et à partir de là, tu fais quoi? Enfin, je sais que tu te spécialises un peu dans l'UI design, donc les cartes de fidélité, c'en est un peu loin. Comment ça se passe? Parce que tu fais ça pendant une dizaine d'années. Comment se passe l'évolution du freelancing en tant que designer petit à petit?
Au début, je mords dans tout, quoi. Je prends tout ce qui passe. Mais progressivement, très progressivement, heureusement, je commence à trouver des clients qui, à l'époque, accrochent sur le côté Apple. On est plutôt en 2001-2002, donc okay. Là on trouve des clients qui tout de suite aiment le côté minimal, le côté qui sont prêts à investir dans du bon design. Okay. Et progressivement, je passe plutôt de faire des sites web marketing à designer pour des gens qui font des applications. Donc okay. Là on trouve pas ça à Rennes, donc je commence à travailler via Skype à l'époque et via email, et donc à travailler en télétravail pour des boîtes qui peuvent être à Paris, dans le sud de la France ou en Belgique. Et là, par contre, on commence à être sur un travail d'interface avec designer des vraies applications.
Et il me semble qu'à un moment, tu décides de quitter la France. Pour quelle raison? Parce que là, alors je comprends, hein, c'est facile de bouger une fois que tu as des clients qui sont un peu partout et que toi, tu es en télétravail. Mais qu'est-ce qui te pousse, toi, à quitter la France? Je crois que tu fais un bon gros tour en Asie. Qu'est-ce qui t'amène, toi, en tant que designer, à bouger, en fait?
Eh ben, écoute, ça faisait peut-être 6 ans en freelance. Ça commençait à ronronner dans mon petit Rennes. Et puis, j'ai un ami, c'est un coup de chance encore. J'ai un ami qui est architecte, qui vit à Hong Kong et que je rencontre en mangeant un sandwich. J'avais pas vu depuis un moment. Et je lui explique mon business et je lui dis, on est en télétravail maintenant. Je vois plus mes clients. Ils sont à Paris, ils sont à Bruxelles, etc. Et il me dit, écoute, viens à Hong Kong. Je suis architecte, ma boîte elle a un gros appartement qui est payé, j'ai une chambre de libre. Et donc là je dis, je vais essayer de travailler pendant 2 mois à Hong Kong et voir ce qui se passe. Est-ce que ça le fait? Est-ce qu'avec le décalage horaire on peut continuer à travailler? Et donc me voilà à Hong Kong.
On va en venir au vif du sujet et du point qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la création d'icônes. Toi, tu travailles sur plusieurs, tu travailles pour plusieurs clients, et il y a un an, il me semble que tu commences déjà à lancer un truc qui s'appelle Interface Design Framework.
C'est ça.
Et du coup, j'aimerais bien savoir un peu pourquoi en fait tu décides de lancer un side project et pourquoi tu décides de faire ça. C'était une espèce de, si je me souviens bien, de mini librairie sur Illustrator où tu avais des icônes, des couleurs, etc. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça en fait?
C'est inspiré par, j'ai toujours été proche des développeurs dans ma startup Le Village, où après, quand j'ai travaillé avec tous ces premiers clients pour le design d'interface, c'était Ruby on Rails à l'époque. J'ai participé également à la première conférence Paris on Rails à l'époque.
Okay.
Et voilà. Et donc, tout ça m'a toujours inspiré la méthode productive des développeurs, d'où le terme framework. À l'époque, ça n'existait pas. Hein. Chacun faisait son petit truc, refaisait ses icônes à chaque fois. Et là, c'est l'idée de systématiser, d'avoir des bibliothèques, des librairies. Et c'est donc en 2010, je crois. Et donc, ça comprend, par exemple, des graphic styles qu'on peut appliquer dans Illustrator. À l'époque, là, Figma n'existait pas. La plupart des gens travaillaient sur Photoshop. Moi, j'étais un des seuls qui travaillait avec Illustrator parce qu'il amenait beaucoup plus de souplesse avec le vectoriel par rapport à Photoshop et de précision. Et donc, à l'intérieur de ce framework, donc il y avait des objets qu'on récupère, qu'on utilise souvent, comme par exemple des boutons. Il y avait également des styles qu'on appliquait aux boutons parce que c'était l'époque des boutons glossy et des icônes.
Ok. Et donc, du coup, assez rapidement, il me semble que tu lances aussi un deuxième projet qui s'appelle Minicones, donc qui est un set d'icônes de 1500 icônes, ce qui me paraît toujours énorme, en fait, ce qui paraît très peu aujourd'hui, mais bon, ce qui était déjà énorme. C'est un deuxième projet, du coup, c'est en parallèle du Interface Design Framework. Pourquoi tu décides de créer ton propre set d'icônes, finalement ? Parce qu'à l'époque, c'était pas banal.
Non, parce qu'en fait, j'ai d'abord lancé ce framework qui a eu un énorme succès à l'époque.
Ouais.
Je vois plein de gens, je vois les visites, le nombre de downloads, tout le monde a l'air d'aimer, ils en parlent, ça devient viral. Et puis, je vois que la partie qui les intéresse le plus, c'est les icônes. Alors, le truc, c'est que moi, j'utilisais pour moi-même ce framework au départ. Mmh. J'utilisais ces icônes dans mon propre travail. C'était pour rationaliser et rendre mon travail plus productif. Et puis, c'est un peu comme les développeurs qui se mettent à développer leur propre CMS. Tu vois, il y a une passion à un moment et en fait, on perd de point de vue de « je vais l'utiliser pour mon travail ». C'est la passion de continuer à ajouter des choses. Je crée le premier, il en avait combien ? Je crois que Minicones, quand je l'ai lancé, il y avait 750 icônes gratuits, c'était même pas payant. Et pareil, ça devient énorme. Tout le monde partage sur les réseaux sociaux. Et donc, je me dis, bon, je vais quand même faire une version premium. Je vais essayer d'en vivre un peu, quoi.
OK.
Et puis, je lance la version premium qui, comme tu le dis, ça paraît, à l'époque, c'est dingue. 1000 icônes, c'est fou, ça n'existe pas, quoi. Moi, j'avais acheté moi-même un pack d'icônes d'une autre personne avant, qu'on avait 500 et 1000, ça me paraît délirant, quoi. Et là, il y en a 1500, c'est le Ultimate Pack, tu vois. Et puis, ça fait un carton aussi, quoi. Ça fait un carton et je m'aperçois, je fais plus d'argent dans ces ventes, hein, dans ce premier mois, hein, t'as un pic, après ça redescend. Mmh. Et je me dis, c'est énorme, je vais plus d'argent que travailler avec mes clients. Et c'est passionnant.
Et du coup, à quel moment tu décides en fait d'en faire ton métier à plein temps ? Parce que il me semble que tu l'as dit, tu le lances en 2010 et en fait tu arrêtes le freelancing en 2012. Donc pendant ces deux années-là, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, je me dis comment tu fais la bascule d'être designer freelance, d'avoir un petit side project à côté, et en fait à la fin c'est le side project devient ton emploi en fait.
Voilà, bah c'est progressif parce que j'aime pas prendre des risques. Et je continue à garder mes clients. Et puis en side project, ben je passe du temps. Le fait qu'à cette époque-là, je suis en Thaïlande, me permet de faire ça. Parce que le fait que je suis déjà à Hong Kong, hein, je suis resté que 3 mois à Hong Kong, 2-3 mois à Bali. Et rapidement, je suis allé à Chiang Mai, que j'ai trouvé génial. Je suis resté là-bas 6 ans. Le fait d'avoir peu de dépenses me permet d'avoir plus de temps libre, de prendre moins de contrats. Et m'a permis, pendant cette transition de 2 ans, de travailler, parfois pendant des semaines et des semaines, à peaufiner mes petits icônes sans pression. Si j'étais en France, je pense que j'aurais beaucoup plus de pression qui ne m'aurait pas permis de passer des semaines et des mois à peaufiner des grosses librairies d'icônes. Donc progressivement, hein, je commence à travailler là-dessus parce qu'il faut non seulement créer la librairie, mais ça prend du temps de promouvoir, ça prend du temps de contacter des gens, tout ça. Je commence aussi à me renseigner sur comment faire buzzer un peu les trucs sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça prend du temps.
Ok, et je sais que dans une interview, tu disais que le plus dur, en fait, c'était pas tellement de créer, c'était le fait de communiquer. Et comment tu fais pour partager, en fait, ce projet qui est le tien, en dehors du fait que à l'époque, il y avait une véritable demande et que tu étais à peu près le seul sur le marché? Comment tu mets en avant ça? Surtout, si je ne me trompe pas, à l'époque, tu vendais un pack d'icônes en one shot et tu n'avais pas un abonnement. Mmh. Donc, tu n'avais pas de revenus récurrents, on va dire. Comment tu faisais? Parce que du coup, tu dois toujours communiquer, toujours communiquer, toujours communiquer.
Voilà, d'où la souscription, parce que ça devient de plus en plus difficile. Il y a une saturation du marché. Je crois que les gens aujourd'hui sont plus très intéressés par des énormes packs d'icônes. Ils en auront besoin pour le boulot. Ils vont nous trouver grâce à Google. Ils vont nous trouver de bouche à oreille. On doit avoir, on va dire, entre 30% et 50% des ventes qu'on fait, c'est des recommandations. Mm. C'est quelqu'un qui demande à son collègue, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme pack d'icônes? Ils vont lui dire Streamline. On est extrêmement populaire en Allemagne, en Suisse, dans les pays scandinaves, ce qui me fait très plaisir parce que je suis un grand fan du design scandinave. C'est un peu un hommage qu'ils aiment Streamline et notre style. Et donc, c'est beaucoup de bouche à oreille. C'est évidemment, on est là depuis longtemps, donc on est présent dans les moteurs de recherche. Mais pas tant que ça. On a des concurrents qui nous écrasent dans les moteurs de recherche. Je pense que ce qui marche beaucoup, c'est le bouche à oreille. C'est quand même qu'on est présent dans les moteurs de recherche, sur Twitter aussi.
Ça marche. On parlera un peu de la concurrence tout à l'heure, mais avant, j'aimerais bien du coup parler de Streamline, puisque pour l'instant, on est toujours sur Minicoins. En 2012, tu lances Streamline, donc il y a un set d'icônes très orienté style iOS. J'ai envie de te demander pourquoi tu as décidé de créer un deuxième pack d'icônes plutôt que de, je sais pas, par exemple, enrichir Minicoins. Qu'est-ce qui t'a amené justement à dire on fait un deuxième pack d'icônes avec le même nombre d'icônes, mais cette fois-ci avec un style un peu différent?
Est-ce que tu as regardé les premiers Minicoins? C'est quoi ils ressemblent?
J'ai regardé vite fait les photos, mais ça, je...
C'était... J'en suis pas très fier.
Il faut bien commencer quelque part.
C'est ça. C'est le truc important. C'est que la première, c'est une espèce de prototype.
D'accord.
Et ils étaient pas mal. Je me suis fait un peu la main. C'est quelque chose qu'on vend plus aujourd'hui, que je ne mettrai pas en vente. Mm. Je sais même pas ce qu'on en a fait. Il devait être dans un zip quelque part. On pourrait les mettre en open source. Par contre, Streamline, là, tout de suite, c'est là que j'ai passé des mois à peaufiner les styles et avoir quelque chose de parfait. Et Streamline, on l'a lancé en 2012, non, en 2024. On a la version 6, je crois. Et de toute façon, c'est juste des numéros, hein. 6-0, 5-0, c'est un peu du marketing, mais on les s'améliore tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est ça qui m'a poussé à partir sur un nouveau produit, faire table rase et chercher la perfection.
Ok. On va parler de la suite, mais du coup, je dépile un peu tout de manière chronologique, mais j'ai découvert aussi que tu étais le créateur de Fantastic. Je ne le savais pas. Je sais que tu l'as vendu depuis, mais j'ai découvert que c'est toi qui avais bossé derrière ce projet-là, donc qui était... c'était en fait un... Enfin, c'est toujours d'ailleurs un logiciel, un site qui te permet de créer ton propre pack d'icônes en mettant des SVG dedans. Pourquoi tu décides de créer en fait ce site-là qui m'a l'air d'être un peu finalement un concurrent de tes packs d'icônes, puisque tu laisses les gens faire leur propre pack d'icônes à eux avec un autre site?
Pourquoi je l'ai fait à l'époque? Parce que c'était un moyen qui semblait très sympa pour intégrer plus facilement les icônes dans le travail du web designer, des développeurs.
Okay.
Donc ça m'a aussi séduit à l'époque. Tu sais, il y a des buzz comme ça sur Internet. Et puis là, c'était les icônes font, c'est génial, c'est l'avenir. D'ailleurs, un de nos principaux concurrents s'appelle Font Arson.
Oui.
Et ils sont partis de ça aussi à l'époque, plus tard que moi, mais ils ont eu à fond là-dessus. Et donc, c'est l'idée toujours améliorer la productivité. Un streamline, c'est l'idée aussi. Streamline, c'est streamline du workflow, streamliner son processus. C'est le style et également la productivité. Mais je me suis rendu compte, par contre, que c'était un peu obsolète, c'était un peu un hack quand même, d'utiliser des icônes dans des icon fonts.
Et du coup, pourquoi tu décides au bout d'un an de revendre le projet? Parce que je trouve, aujourd'hui il existe toujours, mais qu'est-ce qui fait que dans ton process, tu te dis, ok, ça, on arrête?
C'est vrai, en plus, je regardais le site récemment, il est chouette encore, ça t'a fait plaisir avec une petite vidéo et tout, il reste sympa. C'est se concentrer, c'est ce que j'ai appris en termes de business, sur le tas. C'est qu'on ne peut pas tout faire. Et qu'il y a, c'est pas le premier projet que j'aurais arrêté ou revendu ou mis au placard. On peut pas tout faire. Je me suis concentré. Ça prenait du temps. Et j'ai préféré le vendre à quelqu'un d'autre qui je pensais aller développer, qui finalement l'a pas fait, malheureusement. Donc c'est resté au point mort. Hein. C'est exactement le site que je lui ai vendu en 2015. Et malheureusement.
Ouais, en préparant l'émission, je suis repassé dessus pour me dire tiens, est-ce que ça existe toujours ? Et là, je me suis dit mais en fait, le site n'a toujours pas changé parce que je me souviens l'avoir utilisé il y a très longtemps. Et j'étais ah oui, mais tout est pareil.
Exactement.
Et il y a une question que j'ai envie de te poser en tant que designer et en tant que créateur de boîte, c'est parfois il faut lâcher ses idées, parfois il faut pas être jusqu'au boutiste. Et comment ça s'est fait pour Fantastic ? À quel moment tu te dis il faut que j'arrête et à quel moment tu acceptes de lâcher l'idée et te dire c'est pas grave ?
Parce que je voulais me concentrer sur créer les icônes avec Streamline, qui m'intéressait beaucoup plus que la partie technologique de Fantastic et avant tout prendre des icônes et inventer un système pour permettre aux gens d'en créer des icônes fonts. Et puis, oui, c'est le premier truc, oui, le plus important.
Et alors du coup, j'ai une question à te poser, c'est parce que ensuite, si on dépile tout ce qui a été fait, c'est en 2014, donc un an après Fantastic, tu lances Caméléon, qui est un set d'illustrations, pas des icônes. En préparant l'émission, je me suis dit, ça, on dirait encore un autre focus. Et du coup, ce que je voulais te demander, c'est pourquoi ce shift vers les illustrations, en gardant les icônes à côté, mais du coup, pourquoi tu as décidé d'aller sur deux pans différents ? Et est-ce que ça n'a pas posé, on va dire, entre guillemets, un problème de focus, comme tu es en train de le dire ?
Bah, on essaye de se diversifier. Premièrement, parce que on essaie d'offrir plein de choses qui peuvent être intéressantes pour le designer, donc les icônes, les illustrations. Caméléon aussi, c'est sans doute, j'ai trouvé que c'était super chouette que dans Illustrator à l'époque, c'était nouveau, il y avait les global colors, les couleurs globales, donc on change le swatch, on change la palette de couleurs, et ça se répercute sur tous les icônes. Et là, on est, je sais pas, en 2014, et c'est cool, faut utiliser ça. Donc j'ai appliqué ça à 1500 icônes, qui était un peu, ouais. Donc c'est un petit peu des fois, moins maintenant, mais à l'époque, j'y allais beaucoup par coup de cœur, quoi.
Ouais. Et ok, trop bien. Et du coup, après, je vais faire toute une liste et après, on va rentrer dans le détail de la création d'icônes. Mais en 2015, tu fais passer Streamline Icons de 1600 à 5000 icônes. Tu crées Nova, qui est un pack d'icônes qui est plus Android friendly. Ensuite, par la suite, en 2017, tu lances Ego, qui est un pack d'icônes très, très Cybertruck de Tesla, on va dire, très angulaire.
Tout à fait.
Après, tu lances Streamline UX avec encore des illustrations et c'est passé de 3000 à 19000. Les chiffres sont fous, en fait.
Ouais.
Ensuite, tu lances Streamline, donc, tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec 30 000 icônes. Bref, il y a une quantité de choses que vous faites. Vous d'ailleurs, puisque tu passes à une équipe de 18 personnes. J'ai envie de te poser une question avec tout le recul que tu as. C'est comment on crée une bonne icône ?
Ah, c'est une bonne question. Comment on crée une bonne icône ? Il faut du sens d'abord. Alors, il y en a qui sont faciles. Premièrement, il y en a, par exemple, comme une maison, des choses comme ça. On regarde un peu ce qu'en font les autres. Et puis, on se fait un peu un mood board avec différents types d'icônes. Et puis, on trouve sa propre recette, sa propre style. Moi, mon style qui a toujours été un petit peu dans les arrondis, dans la légèreté, dans le minimal. C'est très scandinave, hein, finalement, si on regarde... Même des choses qu'on a sur Streamline, je regardais quand j'ai lancé Streamline 1.0, qu'on voit les mobiliers qu'il y a à l'intérieur, même dans Fantastic, les mobiliers qu'il y a, c'est des mobiliers très arrondis.
Oui.
On est entre le scandinave et le Apple. Donc, c'est le style. C'est la première chose, donc trouver un style. C'est un bon icône, c'est chaque détail est important, comme dit Saint-Antoine de Saint-Exupéry. On n'a pas fini quelque chose qu'on a ajouté une dernière chose, mais qu'on a enlevé. Donc, on passe souvent du temps à regarder qu'est-ce qu'on peut enlever. Les espaces négatifs sont très importants aussi. Les espaces à l'intérieur. C'est pas seulement les lignes, c'est le volume à l'intérieur. Et parfois, on passe des heures à bouger des pixels pour trouver l'harmonie. C'est l'harmonie. Tout ça, c'est le style. Ce qui est également important, c'est de trouver parfois, quand un icône n'a pas encore été fait, c'est de trouver le sens. Et là, on travaille sur la symbolique. C'est la capacité à comprendre les symboles que les gens ont dans la tête, les symboles universels, et qu'est-ce que les gens vont comprendre par rapport à un icône. Donc, c'est un travail sur le sens et c'est un travail sur le style.
Ok. Et si on étend un peu, c'est qu'est-ce qui fait un bon set d'icône? Parce que tu vois, quand je comprends le style, je comprends le temps que tu passes dessus, mais comment tu fais après pour créer une harmonie? Parce que parfois, j'ai l'impression que tu peux te faire un peu, entre guillemets, happer par la machine. Et donc, plus le temps passe, plus les icônes sont un peu dans le même style, mais il y a un truc qui fait que c'est plus les mêmes icônes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Où on perd un peu le sens dans sa globalité, alors que chaque icône prise les unes après les autres, ça marche. Mais ensemble, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui fait du coup que... Comment on crée un bon set d'icônes?
Ça ressemble beaucoup au travail sur les fontes, sur la typographie, où tu as à la fois chaque lettre d'une fonte doit être individuellement comprise et individuellement avoir son identité. Et en même temps, quand on regarde l'ensemble de la fonte, tu dois y avoir un sens d'harmonie, une capacité de facilité de lecture. Le gros problème d'un gros set d'icônes, c'est comme tu l'as dit, c'est il faut qu'il y ait une harmonie, il faut que ce soit consistant aussi. Et parfois, on se retrouve à déjà avoir fait 1000 icônes et on change d'avis sur un petit point. Et on doit tous retaper. On doit tous retaper les 1000 icônes pour adapter, pour les passer en revue. Donc, le problème de la création d'icônes quand on part dans des packs comme on a, c'est qu'à un moment, au début, ça va vite. Et puis, à un moment, quand on dépasse quelques centaines d'icônes, là, c'est la galère. Parce que le problème, c'est comme le code pour un développeur, hein, c'est la maintenance, c'est l'évolution.
Okay. Et du coup,
il faut être maniaque. Il faut être maniaque, il faut être perfectionniste. J'ai la chance d'avoir, être complètement sur la même ligne d'onde avec tous les designers qu'on a et le chef artistique qui est espagnol. Donc, la plupart des designers travaillent depuis la Thaïlande, où j'ai vécu longtemps à Chiang Mai. Et puis, le directeur artistique, il est espagnol. Ils sont pareils. On est perfectionnistes. Et on se comprend bien et on travaille vraiment sur les détails et l'harmonie, et ça ne fait pas peur de reprendre 2000 icônes et de les rendre parfaits, quoi.
Donc du coup, ça vous est déjà arrivé de reprendre des icônes et de les refaire? Enfin, je veux dire, vous attendez de... Peut-être la question, c'est est-ce que vous attendez que tout soit parfait pour les mettre en ligne, ou des fois ça vous arrive d'en mettre en ligne et de dire ah, en fait on va repasser dessus, et vous repassez sur toutes les icônes parce que vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui n'allait pas, un peu comme tu viens de le dire?
Ah, quand on les lance, on pense qu'ils sont parfaits.
Ouais.
Et puis quelques mois après, on les regarde, on se dit tiens, on pourrait améliorer ça. C'est ce qui fait la particularité de Streamline. Je pense que la compétition fait pas ça, très peu, et ça se voit pas, parce qu'il y a beaucoup qui vendent un peu au kilo les icônes, quoi. Qui vendent bien, ils en vendent 2 millions. Mais par contre, t'as ces problèmes de consistance. Il y en a qui sont bien dans leur pack, il y en a qui sont pas bien. Et nous, on est un peu fou parce que on va reprendre des icônes qu'on a déjà fait et les améliorer. Est-ce que les gens vont le voir? J'en suis pas sûr. On est en train de refaire Nova, par exemple, en ce moment. Okay. Et de les refaire de A à Z. C'est des semaines, c'est des mois de boulot. Qui passe des mois là-dessus. Et donc, Streamline a été, si on regarde les premiers icônes, je vois devant moi, là, complètement changé depuis le début, quoi. En fait, tous les icônes ont été refaits un par un, quoi.
Wow, c'est limite un vrai travail d'artisan, en fait, ce que vous faites, où vous reprenez vraiment au micro-pixel près pour que tout soit homogène et tout soit dans consistance.
C'est ça.
C'est ouf.
C'est ça. C'est un vrai travail de designer. Je me sens beaucoup comme beaucoup d'affinités avec le design scandinave, le design de meubles ou ce genre de choses, où les gars vont peaufiner pendant des semaines, vont travailler sur les détails. Il y a un sens de l'artisan. Je le vois un peu comme un fabricant de jouets dans le Jura, en train de faire ses jouets en bois, tu vois.
Ah, c'est vraiment l'impression que tu me donnes. Et du coup, j'aimerais bien te poser une question, parce qu'il me semble qu'à un moment, dans une de tes interviews, tu avais dit que le pack d'icônes Ego, donc le truc très cyberpunk, très angulaire et tout ça, n'avait pas vraiment marché. Et du coup, j'ai envie de te poser la question de comment vous savez que ce sur quoi vous êtes en train de travailler va marcher ou pas, parce que le pack, d'ailleurs, il existe toujours aujourd'hui, il s'appelle Cyberline. Donc, vraiment, quand je l'ai revu, j'étais là genre, ah, mais c'est vraiment le même. Est-ce que vous l'avez fine-tuné au maximum pour que ça plaise? Est-ce que c'est juste des tendances? Enfin, tu vois, j'aimerais bien comprendre pourquoi tu l'as gardé alors que tu expliquais que ça n'avait pas du tout marché.
Alors, il y a des gens qui commencent à l'utiliser maintenant. C'est mon pack le plus plus personnel, en fait, j'ai fait moi-même. En général, avec Streamline, j'étais capable, je travaille comme un directeur artistique, je définis au départ un nouveau style, je crée quelques centaines d'icônes, et c'est en créant ces centaines d'icônes, au fur et à mesure, qu'on adapte, qu'on revient sur les premiers, qu'on peaufine, qu'on trouve le langage visuel. Ego, j'ai pas pu, j'ai commencé à vouloir déléguer à d'autres personnes, et j'y arrivais pas, c'est trop difficile. C'est basé que sur des angles aigus, que des droites, il n'y a pas d'arrondi, c'est extrêmement difficile de trouver une harmonie. Donc je me suis tapé 3600 icônes tout seul, et puis c'est un échec commercial, mais ça c'est succès artistique. et donc on l'a pas développé, j'ai laissé tel quel, et puis il y a des gens qui aiment ça par contre. On essaye par contre d'avoir des choses très neutres. Streamline, c'est l'Helvetica. Core aussi qu'on a lancé, qui est un petit peu différent. On est dans des choses timeless, des choses qui sont là pour toujours, qui seront toujours utilisées, qui sont absolument neutres. C'est comme l'Helvetica, hein. On peut critiquer ou pas, c'est toujours là. Et Streamline restera. Mais il y a des gens aussi qui veulent avoir des icônes qui ont une personnalité différente, hein. C'est comme des personnages. T'as des gens qui sont un petit peu plus rondouillards, plus sympas. On a Plump pour ça, qui est une fonte tout en courbe, très friendly, très sympa. Ego, bah, c'est le bodybuilder ou c'est Tesla, tu vois. C'est le Cybertruck. Donc, il faut avoir quand même différents choix. Mais on se concentre énormément maintenant sur des grands classiques comme Streamline, Core, Flex aussi qu'on a, qui marche bien.
Et vous faites, ouais, justement, vous faites ça parce que ça répond à la demande ou c'est, enfin, qu'est-ce qui fait que vous choisissez de favoriser un set d'icônes plutôt qu'un autre?
Au début, c'est une intuition.
Okay.
C'est une intuition. Si on se dit on va le faire, en général, on peut pas lancer 50 icônes. On est obligé d'avoir un certain volume, au moins 1000 icônes, pour présenter un certain diversité et que ce soit pratique, quoi, que le designer puisse trouver ce qu'il a besoin. Donc, on est obligé d'en créer 1000. On voit ensuite, grâce à nos applications, l'usage. On a des outils analytiques qui nous permettent de voir quels sont les plus téléchargés, quels sont les plus utilisés.
Et quand vous voulez lancer un nouveau set d'icônes, est-ce que c'est pareil? Tu regardes un peu ce que disent vos clients pour savoir s'il y a des retours, des attentes? Est-ce que vous regardez un peu les tendances? Parce que ça change souvent. Donc, du coup, est-ce que le pari est risqué ou pas? Comment vous décidez de dire on part sur ce type d'icône ou ce type d'icône pour la suite?
On est sans doute un peu proche parfois du designer de vêtements dans l'industrie de la mode, des choses comme ça. Ça part des fois sur une intuition, quoi. On n'a pas non plus envie de faire tout le temps du générique et du. On faisait aussi ça dans l'équipe. À un moment, il y avait les Friday, Creative Friday, où ils pouvaient passer la journée du vendredi, s'ils voulaient, à faire un projet personnel, un truc qui n'était pas. Parce qu'ils font des icônes toute la journée, tous les jours, pas toute l'année. Donc, pour stimuler la créativité, pour pas qu'ils s'ennuient. Et c'est comme ça qu'on a des projets qui sont nés, quoi. Puis là, récemment, on a un projet qu'on appelait Boros au début, qui devient Blocks, qui quelque chose qui est basé sur le directeur artistique a commencé un petit peu à s'amuser avec ça. Et l'idée, c'est un peu comme des blocs pour enfants qu'on empile. Et ces blocs du Boros, en fait, qui avait ça, c'était un jouet un peu design qui était fait avec des formes géométriques très primitives, avec lesquelles les enfants pouvaient créer en fait des constructions. Et donc, ça nous a inspiré et on est en train de développer ça, par exemple.
Ah, c'est trop chouette. Et comme tu as déjà parlé plusieurs fois du taf de directeur artistique chez vous, c'est une personne qui est du coup en charge de créer des nouvelles tendances, de réfléchir, de tester de nouvelles choses. C'est ça le rôle du directeur artistique chez vous?
C'est ça. Et puis tous les jours, en fait, il a commencé à travailler il y a un peu plus de deux ans. Jusque-là, c'était moi qui, tous les jours, on a un channel Slack, où tous les designers vont venir en fin de journée dire « voilà ce que j'ai fait aujourd'hui » et copy-colle le boulot qu'ils ont fait, qui est très visuel, c'est sympa. Donc tout de suite, moi, j'allais là dans Slack, et c'est ce que fait le directeur artistique, et il dit « ça, c'est très bien ». On annote un petit peu comme dans le travail de l'édition, où quelqu'un va venir avec son crayon rouge, annoter, donner des... Parfois, je vais leur dire « il faut augmenter l'espace négatif, il faut arrondir là ». Cette icône, pourquoi est-ce que les gens vont comprendre, etc. Donc, c'est un boulot qui me prenait des heures tous les jours d'aller voir le travail de 7 designers et de leur dire ça c'est bien, continue, c'est parfait. J'ai un truc spécial sur mon bureau avec des emojis pour donner des thumbs up, des plus 100, des fire. Ça fait énormément partie du travail, c'est d'encourager et d'aider. Et progressivement aussi, on se comprend mieux en mieux, ils comprennent ce que je veux. Parfois, ils m'épatent aussi, ils arrivent avec des idées géniales. Donc, tout ce travail, il y a des heures par jour pour le directeur artistique de faire des retours.
Ok, donc il y a une partie, on va dire, plutôt projection de créer des nouvelles idées, des nouvelles guidelines, et il y a de l'autre côté s'assurer que dans ce qui est créé, il y a une cohérence et que ça réponde toujours au perfectionnisme que vous avez mis en place sur chacune des sets d'icônes, c'est ça?
Exactement. Et là, en ce moment, en fait, ce qui se passe, c'est que le designer, le directeur artistique va donner des feedbacks, mais je passe dans les channels quand même. Et souvent, je dis, ouais, mais attends, là, si on faisait ci et ça, je repasse parfois derrière son travail. On collabore beaucoup, hein. Ça m'arrive, ça nous arrive, je fais un truc, il va le reprendre directement dans Figma, qu'on utilise beaucoup. Et puis, il va commencer à le transformer. Et un autre designer va arriver, il va le prendre, il va faire une autre version. Donc, on fait ça beaucoup, on reprend le travail des autres, on itère dessus. Et c'est assez très collaboratif, en fait.
Ouais, justement, je voulais te poser cette question-là. Du coup, il n'y a aucun problème à ce que chacun puisse prendre le travail de l'autre et l'améliorer, en fait. Finalement, l'idée, c'est juste d'avoir quelque chose de parfait à la fin, qu'importe qui soit passé dessus et comment ça a été fait, c'est ça.
Tu ne le sais peut-être pas, mais Design Journeys est un podcast que je produis sur mon temps libre et de manière totalement indépendante. Alors si tu souhaites m'aider dans cette aventure, sache que j'ai ouvert une page KissKissBankBank sur laquelle tu peux faire un don pour soutenir l'émission. Cela m'aidera à payer les frais d'hébergement du podcast, du site internet, mais également à préparer de nouveaux projets que j'ai en tête depuis un petit moment. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description. Allez, maintenant je te laisse avec la suite de l'épisode.
Alors c'est carrément ça. Je pense qu'on met les égos de côté, il n'y a pas de diva. Et ce qui est le plus important pour tout le monde, c'est qu'à l'arrivée, l'icône soit le meilleur pour l'utilisateur.
Ok. Et toi, du coup, tu designes encore aujourd'hui?
Non.
Non?
Non, mais parfois je dessine. Non, je suis comme comme ces feignants de directeurs artistiques ou de fashion designer. Moi, j'arrive avec mon petit crayon, tu vois. Et puis, mais ça, du coup, ça donne du recul également. Ça donne du recul de ne pas être tout le temps à manipuler les vecteurs. Et parfois, c'est juste l'œil. L'expérience, ça fait maintenant 12 ans que je fais ça. 14 ans, en fait. 14 ans, et tout de suite, je vais voir, il y a un problème là, il faut rectifier ça. C'est plus la direction générale.
Ok, et du coup, tu ne designes plus parce que tu n'as plus envie ou juste parce que tu n'as plus le temps en tant que directeur de faire des retours, gérer les équipes, ça prend trop de temps pour toi et donc ce qui fait que bah, en fait, tu ne designes plus.
Ça me manque. J'adorerais pas ça. C'est génial. Ben oui, tu passes des heures avec ton petit café là, à faire des icônes. Moi, je travaillais beaucoup avec les croquis d'abord. Je commençais toujours avec un calepin au crayon papier. Je vois que dans les designers qui travaillent, avec qui je travaille, beaucoup, la jeune génération, ils font pas trop ça. Et je suis toujours en train de leur dire, commencez par le crayon, le papier. Parce que c'est là que tu donnes du volume. C'est là que tu sens les proportions. C'est là que tu as de la liberté, quoi. Et après, il faut aller dans le logiciel. Le risque du logiciel, c'est que ça devient très générique. On perd, ça devient trop stéréotypé, quoi. Et donc, ouais, moi, j'adorerais en faire plus, mais je suis tellement pris avec tout le reste. Gestion de projet, je suis devenu un manager et un stratège.
Ok. Et tu designes pas un petit peu sur le côté, sur ton temps libre, si t'en as, juste pour le fun?
Alors, j'ai une femme et deux enfants. Donc, non, malheureusement.
Ça marche. On a mis un peu de côté la partie illustration, mais aujourd'hui, Streamline, c'est aussi beaucoup d'illustration. J'aurais voulu savoir si votre méthode de travail sur les illustrations est la même que sur les icônes.
Oui, c'était la même chose également. Mais les illustrations, honnêtement, on y passe moins de temps aujourd'hui. On a continué et on faisait plus appel à des illustrateurs freelance externes. Okay. Les icônes, ça a toujours été fait à 100% par nous. Les illustrations, c'est en partie nous et en partie des gens à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on s'est également reconcentré complètement sur les icônes, en partie à cause de la menace, pour être clair, de l'intelligence artificielle. Puisque je pense que C'est difficile d'ailleurs. On a essayé de créer nous-mêmes des illustrations avec intelligence artificielle, pourquoi pas, parce qu'on a une équipe de 4 développeurs qui sont très brillants aussi. Et c'est quand même difficile de créer. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est créer d'énormes collections qui soient consistantes encore, qui ont une harmonie entre elles et qui aient du sens. Parce que souvent, ce qu'on aimait bien, je voyais les illustrations qu'on a fait nous-mêmes, il y a toujours un petit côté sympa, rigolo, des petits clins d'œil. Et souvent, l'intelligence artificielle, ça donne un côté copieur, et copieur sans âme, quoi. Mais quand même, ça nous a calmé sur les illustrations, on s'est dit, on va se recentrer sur les icônes. Parce que là, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que l'intelligence artificielle aura beaucoup de mal à créer des packs de 10 000 icônes, où il y aura justement cette harmonie, cette consistance, parce que 2 pixels peuvent faire une différence, quoi. Dans l'icône.
Justement, je voulais te poser, je voulais en parler parce que, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un an, Google avait sorti un algo où en fait tu mettais en entrée plusieurs illustrations et après tu disais voilà ce que je veux et te mettais en sortie quelque chose qui s'inspirait du style de tout ce qui avait été mis en entrée. Donc tu avais quand même cette patte faite main et après la machine le reprenait et le copiait. Du coup, toi tu dirais qu'aujourd'hui c'est plus ou moins une menace pour la partie illustration, mais pour la partie icône, en fait, le travail est tellement précis que c'est impossible pour vous de vous faire dépasser par l'IA.
Ah ouais, ça va être difficile d'avoir quelque chose qui est basé sur une grille de 16 pixels, qui est basé sur une harmonie, un espace entre chaque élément, qui est basé sur la grille, une consistance entre ces milliers d'éléments. Et puis, il va falloir créer quelque chose où c'est organisé également, classé par catégorie. Il y a le risque que l'intelligence artificielle fasse des duplicates, fasse des trop de copies de la même chose. Enfin, c'est chaud, quoi, parce qu'il faudra quand même quelqu'un qui soit capable de faire ça. Donc, je pense que c'est pas possible. Sur les illustrations, le marché de l'illustration où une personne a un article à illustrer et se moque un peu de la consistance entre les différentes articles, bah ça c'est mort, quoi. C'est là, tu vas dans n'importe quel outil maintenant de génération d'images, et il va te faire un truc génial qui est exactement ce que tu veux. Par contre, si une marque cherche à avoir une librairie qui va être utilisée par ses employés ou par sa communication, et il faut que ce soit consistant, il faut qu'il y ait une harmonie, ça va être difficile de faire ça avec l'intelligence artificielle. Et puis, qui est-ce qui va les créer? Les gens vont commencer à créer n'importe quoi. Et ça, c'est difficile. Donc, avoir des librairies d'illustrations comme on a, où il y en a quand même 1600 parfois, différentes, toutes faites à la main, pour une marque, on voit qu'on fait encore des grosses ventes avec des marques qui ont besoin de ça encore, d'avoir une harmonie, une consistance.
Finalement, ça me fait un peu penser à, par un temps, toute cette armée de photos Unsplash où tu avais la même photo à peu près partout et où elles étaient toutes inconsistantes les unes après les autres, mais où ça faisait entre guillemets le taf. Finalement, tu es un peu en train de dire que c'est la même chose, mais en étape d'après où tu choisis de générer ce que tu veux.
Oui, c'est vrai. Le gros problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'on donne beaucoup trop de pouvoir à l'utilisateur. N'importe quel outil est potentiellement fantastique. Et quand on voit ce que les gens font, même avec un template, tu leur donnes le plus beau des templates, et ils vont te le fusiller, quoi, la plupart des gens. Et après, on ne changera pas le bon goût, quoi. Donc, c'est vrai que l'intelligence artificielle va vraiment menacer, c'est clair, plein de gens. Elle va menacer les illustrateurs. Ça, c'est très, très... Ça va être un moment difficile pour eux. Mais en même temps, si tu te mets dans une boîte, comme par exemple, je ne sais pas, t'es McDonald's, t'es IBM, t'es Microsoft, est-ce que tu peux donner le pouvoir aux gens de créer n'importe quelle illustration? Ils vont y passer vachement de temps. Ça va donner des résultats complètement... ça va être ça. Comment dire? Inconsistant, ouais. Et imprévisible, quoi. Donc, il y a un problème de... C'est peut-être trop de pouvoir pour beaucoup de gens, l'intelligence artificielle. Et il y aura encore besoin d'avoir des collections préparées. Alors, peut-être que ces collections sont préparées par l'intelligence artificielle et peut-être qu'on vendra ça dans quelques années. Mais il faudra qu'il y ait un curateur qui puisse du coup créer des milliers d'illustrations qui soient de bon goût, bien pensé, et ça prend vachement de temps aussi. Ouais. Ça prendra, chaque illustration prendra beaucoup de temps. Il y aura le même problème de, oui, mais c'est ces milliers d'illustrations. Est-ce que est-ce qu'on a tous les thèmes de représenter? Est-ce qu'il y a une harmonie entre elles? Donc, il y aura toujours ce travail-là.
On en revient un peu à la question que je te posais tout à l'heure sur qu'est-ce qui fait qu'un set d'icônes, il est parfait, qu'est-ce qui fait qu'il est homogène, qu'il est reconnaissable partout et qu'il ne crée pas une espèce de dissonance visuelle juste parce que tu as deux icônes l'une à côté de l'autre qui ne matchent pas ensemble.
Exactement. Tu auras toujours besoin du designer. Mais c'est une menace. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Personne ne sait.
Ouais.
Ça reste une menace. Il faudra s'adapter.
Je profite de cette remarque pour me demander. Enfin, je me suis posé la question, c'est est-ce que Streamline, c'est pas aussi un peu une menace pour les brand designers? Je développe. C'est aujourd'hui, vous proposez des packs d'icônes qui sont immenses, donc ça veut dire que n'importe qui peut les utiliser. Ça veut dire que, je sais pas, moi par exemple, demain, si je veux utiliser toutes ces icônes, elles devraient être toutes plus ou moins représentées. Est-ce que j'ai encore besoin de quelqu'un dans la boîte qui sache maîtriser l'illustration, qui sache maîtriser l'iconographie alors que j'ai déjà tout sous la main?
C'est un peu comme les fontes, la typographie. Même si on design pour les brands, on va pas s'amuser à chaque fois à designer une fonte. Y a des boîtes qui ont les moyens, qui le font. Elles vont commissionner quelqu'un pour faire leur propre. Mais il y a un problème de budget. Pour 90% des boulots, alors il y a des designers qui sont capables de le faire déjà. Faut être capable de faire. C'est pas si facile que ça. Ça paraît simple, mais c'est assez balèze. Ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, est-ce qu'ils vont faire de A à Z tout, la fonte, les icônes? Je pense que pour la majorité des designers, brand designers, ça leur permet de se concentrer sur autre chose, hein, parce que c'est pareil pour le brand design. C'est pas, je vais aller chercher les meilleures palettes tendances du monde du coin, la meilleure typo du coin, du moment, pardon, et mettre tout ça ensemble. C'est la réflexion sur plein. C'est l'assemblage, c'est le bon goût, c'est l'harmonie qui va créer. C'est tout ce travail-là qui fait, hein, c'est pas l'icône lui-même. Parfois aussi, alors une deuxième chose, c'est que nos icônes sont construites avec le minimum, sont construites vraiment propres, avec le minimum de points pour les vecteurs. Et donc elles sont faciles à modifier. C'est pareil, ça peut être une fondation pour customiser ça et l'adapter au projet.
Et c'est quelque chose que vous autorisez, d'ailleurs, j'avoue ne pas avoir lu la licence complète de Streamline, mais vous autorisez les gens à modifier entièrement les icônes que vous mettez à disposition s'ils en ont besoin?
Ah, on encourage, il faudrait peut-être le faire plus clair, mais on encourage. Ouais, c'est avec plaisir, bien sûr. C'est même génial, moi je suis triste de ne pas avoir plus de gens qui reviennent vers moi pour dire « regarde ce que j'ai fait avec ». S'il y a des gens ici qui ont travaillé avec Streamline et qui veulent me présenter ces projets, j'adore. J'adore voir… D'ailleurs, on a bien fait des articles comme ça. On a l'Icons University maintenant qui est disponible. On a commencé à faire des articles sur plein de choses comme ça. Comment, à partir d'un icône neutre, en faire un truc vraiment unique, en travaillant sur les couleurs, en grâce au pouvoir du vectoriel, en travaillant sur les strokes, les lignes, en les épaississant par exemple, en mariant des styles ensemble. Donc, c'est une base de départ. Et pour répondre à ça, c'est ce que va faire le brand designer, c'est qu'il prend des éléments. Et c'est sa cuisine, quoi. C'est un peu comme s'il prenait du sel, du poivre, du beurre et tout ça. Il va en faire sa propre cuisine. Donc, on est un ingrédient, en fait.
Oui, bien sûr. C'est un peu. Je tirais un peu les traits tout à l'heure sur la partie brand design, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que tu récupères des éléments et après, tu décides de faire un peu ta sauce. Mais du coup, ça vous arrive, vous, par contre, de recréer de créer des illustrations, enfin, des icônes, pardon, en fonction des demandes de vos clients? Je ne sais pas si des clients veulent des icônes très spécifiques, est-ce que vous dites « Ok, avec plaisir, on va le faire » ou il y a une espèce de guideline sur ce que vous allez faire et ce que vous n'allez pas faire et pourquoi?
Ben, j'ai toujours refusé, parce que c'est un autre métier. Peut-être en plus, je ne vais pas rentrer en compétition avec les designers. Surtout, on veut se concentrer sur créer nos propres icônes. Mm-hmm. J'ai eu des demandes de boîtes comme Hewlett-Packard, New York Times, choses comme ça. Je me dis « Waouh, c'est flatteur !» Et j'étais tenté. Et Mercedes-Benz, j'ai toujours refusé. C'est toujours le même principe en tant qu'entrepreneur aussi. C'est, il faut être capable de se concentrer. Et j'étais à maintes reprises J'ai pris des chemins, j'ai fait des digressions, je suis parti dans des choses que j'aurais pas dû, des projets que j'aurais pas dû faire. S'il y a une chose que j'ai appris, c'est se concentrer sur une chose. Donc, on se concentre énormément sur les icônes aujourd'hui et pour nos utilisateurs.
D'accord, ok. C'est des donc quand même. Mais du coup, là, parmi les utilisateurs de Streamline, par exemple, ceux qui ont des demandes spécifiques sur des icônes qui n'existeraient pas dans vos sets, là, par contre, vous êtes OK pour les écouter et pour essayer de les faire, ou c'est pareil, tu ne veux pas... Enfin, c'est vous qui...
Ah là, par contre, oui, et c'est gratuit. On a justement un bouton dans l'application qui permet de demander, et donc on y répond. Je crois que les gens peuvent voter aussi. On a un truc, ouais, tout à fait, régulièrement. Là, on vient de, par exemple, quelqu'un a demandé, et vous n'avez pas le logo pour Stripe. Stripe, c'est très important pour les paiements internationaux. Dans Stripe, oh, on l'a pas, c'est vrai, on va le faire. Vous n'avez pas American Express, c'est vrai, merci de le dire. On l'a fait en 2 jours. En 2 jours, c'était publié.
Trop bien. Et est-ce que c'est un peu tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, cette espèce, ce craft vraiment très artisanal, bien faire attention aux espacements, avoir une cohérence partout, avoir un directeur artistique qui vérifie tout, qui fait que vous êtes au-dessus du lot, on va dire, par rapport à la concurrence, ou en tout cas que, je sais pas, moi je trouve que Streamline a quelque chose de différent par rapport à tous les sets d'icônes qu'on voit un peu à gauche, à droite, où tout à l'heure tu parlais de Fontosum, j'ai pas l'impression que sur Fontosum il y ait la même la même vibe, la même dynamique, ça sent moins le petit côté artisan, ça sent vraiment le truc genre boum, on a sorti quelque chose, tous les ans on sort une nouvelle version et vas-y on y va, go.
Ouais, Fontosum, bah, j'ai beaucoup de respect pour eux. Alors ils produisent beaucoup moins que nous, c'est-à-dire qu'on est capable de produire énormément, on a fait plein de styles différents, ils évoluent très lentement et leur background est vachement technologique. Ils ont commencé par un outil pour développeurs, le patron c'est un ancien développeur, donc ils sont très techniques, ils sont très sur l'icône fond, sur tous les détails techniques. Nous on est plus sur le côté design parce que je suis un designer à la base, ça influence. Ils font du très bon boulot, on a des concurrents qui font des trucs superbes aussi, mais très peu. Il y en a 3 ou 4 que je vois qui sont passionnés, mais ils vont en général s'arrêter à un moment. Ils vont être happés par autre chose. Ils sont tellement bons, ces designers-là, qu'ils vont travailler, par exemple, en freelance, sur des travaux de design à côté. Et donc, il faut être fanatique, il faut être obsessionnel pour, comme moi, depuis 12 ans, ne faire que ça, et toujours revenir à l'icône. C'est ça qui fait la différence. Tu vas avoir des librairies d'icônes qui commencent, ils arrivent avec 1000 icônes, c'est cool, ils te disent ça va toujours grossir, on va toujours les améliorer, et puis ça s'arrête. Donc c'est ce côté sustainable, c'est le côté développement durable de Streamline, c'est là depuis 12 ans, c'est là pour rester. Et on est les seuls à mon avis à avoir ce volume d'icônes avec cette qualité, cette consistance. Je crois qu'il n'y a personne qui a fait autant d'icônes aussi bien pendant aussi longtemps.
Avec une telle discipline, ouais, c'est fou. Et tu parlais de Fontosum avec la partie un peu le background tech, mais vous n'êtes pas en reste parce que finalement Streamline aussi, et je sais aussi que tu le disais dans des interviews, c'est que vous avez fait en sorte que pour que les icônes soient... soit accepté par tout le monde, pas que les designers, vous avez développé plein de trucs. Enfin, je sais que vous avez une app, vous avez un plugin Figma, vous faites le pont entre Tailwind et React. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses que vous êtes accessible à tout le monde, à tous les corps de métier qui travaillent autour des designers.
Ouais, tout à fait.
Et la question, du coup, que je voulais te poser, c'est si on revient sur Fontastic où tu disais il faut pas se disperser, etc., à quel moment tu t'es dit que c'était absolument la chose à faire et que c'était pas reprendre un travail avec des développeurs, faire du project management et en fait finalement être un projet un peu annexe du design d'icônes.
Parce qu'on est arrivé à un volume de 5000 à 10000 icônes, ouais. Maintenant on est quand même à 180 000, hein. Mais quand on arrive à 5000, 10000, le problème, c'était quand même quelque chose qu'on payait, on téléchargeait un zip, like one time payment, ouais. Et puis on ouvrait ça dans Illustrator à l'époque, Figma. Et c'est cool, mais il y a un moment, on est perdu. J'ai commencé à me dire, et c'est toujours cette idée de productivité pour l'utilisateur. Comment on peut faire que l'utilisateur trouve rapidement l'icône? Il y a un outil qui s'appelle Icon Jar qui est très bien fait, mais qui est que pour Mac et qui a ses limitations aussi. L'avantage, nous, on a un système qui est centralisé dans le cloud. C'est qu'on peut l'utiliser via Figma, on peut l'utiliser via notre web app, on a une desktop app aussi. Et tout ça est centralisé. Et puis, ce qui est bien maintenant, comparé à avant, c'est que dès qu'on a une nouvelle icône, on a notre propre admin, on l'upload et il est disponible à l'utilisateur. Alors qu'avant, il fallait rezipper tout ça, c'était une horreur, quoi. Donc, productivité pour notre équipe aussi, et rapidité de mise de publication des nouveaux icônes. Et puis, pour l'utilisateur, il y a plein de trucs géniaux. Avec l'app, ils peuvent chercher les icônes. On a quand même, maintenant, le tagage est géré par intelligence artificielle derrière. Il est devenu extrêmement rapide. Ce site, l'app qu'on a il y a 3 ans était lente, buggée. On a 4 développeurs à plein temps. Elle est devenue extrêmement rapide, réactive. La recherche a été améliorée encore dans les dernières semaines. On est tout le temps en train de chercher à avoir un flow qui soit le meilleur pour l'utilisateur.
Trop bien. Dans tout ce que tu m'as dit, de développer toujours plus d'icônes, de toujours faire plus de choses, de proposer de plus en plus d'icônes, la dernière question vraiment que je voulais te poser, c'était est-ce que ça n'a pas un impact sur la créativité de tes équipes ? Parce que tu parlais de 7 designers, un DA. À quel moment je ne veux pas dire crame tes équipes, mais à quel moment il y a un problème de créativité ? Parce que toujours faire plus, c'est... Il y a un moment, tu t'essouffles.
Bon, on sent pas trop ça. C'est pour ça que j'avais d'ailleurs fait ces Creative Friday, ces vendredis créatifs, où justement, je disais, écoutez les gars, aujourd'hui, si vous voulez, vous prenez une journée et vous vous faites plaisir. Le projet que vous voulez, donc ils sont partis dans des trucs, ça pouvait être des illustrations, des emojis, kawaii, très rigolo, très asiatique, des choses comme ça. Et puis, de temps en temps, c'est pour ça qu'on crée aussi des nouveaux styles, comme Blocks ou Boros, qu'on est en train de faire en ce moment, pour essayer de se renouveler et garder la créativité. Je pense que tout le monde a ce plaisir de l'artisan, hein, qui a un plaisir à peaufiner l'objet.
Du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de... J'imagine qu'il n'y a pas du coup d'objectif de sortir 12 icônes dans la journée, tu vois. En fait, la question que je veux te poser, c'est est-ce que vous favorisez plus l'icône parfaite que la quantité? Parce que quand tu dis qu'il y a 180 000 icônes, ça fait beaucoup. Mais j'ai l'impression, si je ne me trompe pas, c'est que là, dans ce qui ressort de ce que tu dis, c'est que vous passez beaucoup de temps en fait, à avoir l'icône parfaite, c'est ça?
Ah oui. Sinon, il n'y a pas d'impératif de productivité. On le refait jusqu'à ce qu'il soit bien, quoi. Jusqu'à ce qu'on soit content. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet, je pense, quand tu poses la question de garder la motivation, si on était en train de vouloir produire tous les jours, faire du chiffre, c'est là que ça devient vraiment difficile de travailler. Et tant que, je pense, chaque soir, le designer d'icône peut regarder ce qu'il a fait dans la journée, et d'ailleurs partager sur Slack avec les autres, et se dire « j'ai fait ça aujourd'hui », c'est en fait un des métiers les plus, qui donne de la satisfaction, parce que souvent, quand on travaille dans la technologie, on a l'impression d'avoir rien fait. D'avoir, par exemple, un développeur passer une journée à juste faire un bug. Ce que j'ai toujours aimé en produire des icônes, c'est qu'en fin de journée, on peut se mettre au fond de son fauteuil, regarder ce qu'on a fait et se dire « j'ai fait ça aujourd'hui ». Donc, tant que c'est pas parfait, tant qu'on n'est pas content de ce qu'on a fait, on continue à le faire.
Très bien.
À l'améliorer.
Est-ce que c'est aussi le modèle à l'abonnement qui vous permet du coup d'avoir cette absence de pression, parce que du coup c'est pas du one shot et où il faut toujours en faire plus et le plus vite possible pour qu'il y ait d'autres personnes qui achètent en se disant waouh, il y a trop de trucs.
Ah, clairement, c'est intéressant parce que j'étais très inquiet avant de lancer les souscriptions,
ouais,
que j'allais me faire défoncer par les gens à l'époque. Et justement, je commençais à arriver à un moment où il fallait lancer Streamline 2.0, il fallait lancer Streamline 3.0, il fallait faire des grands coups comme ça. Je passais des semaines en fait à préparer ça, à préparer le lancement. C'était épuisant, stressant, parce que il fallait que tout le monde le sache. Et les gens, finalement, on avait quand même de moins en moins à faire, de moins en moins intéressés à un gros pack d'icônes. Et donc, le modèle de souscription, exactement, apporte une quiétude, un revenu constant qui nous permet de développer ça tranquillement. Ouais, ouais, absolument. Et ça s'est bien passé. J'ai eu personne, en fait, à l'époque. Il y en a des milliers d'utilisateurs payants. Mais personne, à l'époque, n'a critiqué. C'est ça qui est bien.
Mmh. Bah, tant mieux. Et du coup, ça vous permet, j'ai l'impression, d'apporter une telle qualité dans le temps qui fait que ça devient une force. C'est une force. Vincent, après 14 ans dans les icônes, est-ce que tu as toujours cette même passion pour les icônes ?
Bah ouais, j'aimerais bien même faire ça toute la journée. J'ai une passion maintenant qui vient, c'est les objets. C'est, je parle beaucoup du design objet, des Scandinaves, des objets design. J'ai l'impression, je sais pas si c'est la crise de, j'ai 50 ans cette année, ou si c'est le fait que nous sommes un monde très technologique. Et je vois ça avec pas mal de designers que je suis sur Twitter, qui commencent à faire de la poterie, qui commencent à faire de l'ébénisterie. Je ne sais pas si c'est une crise d'âge ou si c'est le fait que dans un monde qui devient inquiétant, artificiel, où il y a l'intelligence artificielle, où il y a pardon le côté un peu abstrait, et on a envie d'aller vers des choses concrètes. Donc, on est en train de penser en ce moment... justement, un petit projet qui pourrait être sympa, c'est d'avoir des icônes qu'on va produire en bois, dans des bois très jolis, stylés, des choses que tu pourras mettre sur ton, écoute, je t'en enverrai un, qu'on va le faire, avec grand plaisir. Nos meilleures icônes qu'on va produire en bois, donc extrudées en 3D d'abord, produire en 3D, et puis qui vont être faites dans des jolies matières, comme j'espère de l'érable, du chêne, des choses comme ça, ou du hêtre, et qu'on pourra poser sur son bureau. Et là, il y a un grand, grand plaisir à travailler là-dessus.
Je comprends. Est-ce que c'est pas quand même un peu ce défocus de la partie streamline des icônes, un peu comme tu le disais tout à l'heure, où tu regardes un peu d'autres projets, etc. Ou est-ce que pour toi, c'est une continuité de streamline et ça va direct dans la suite logique de ce que tu fais aujourd'hui ?
Alors, officiellement, c'est comme ça que j'ai vendu à mon directeur marketing. C'est pour faire de la promotion. Il y a un peu des deux toujours. Je pense qu'il faut garder la passion. Ça me passionne aussi. L'idée, c'est que on veut montrer. On communique pas assez. Les streamers, on est vraiment, je pense, le meilleur set d'icônes au monde. Et on a expliqué pourquoi assez. Mais c'est pas très connu en fait. Ça sait par le bouche à oreille et on veut se placer au niveau c'est une œuvre d'art finalement. Ces icônes sont des choses qu'on demandait des années à produire, avec beaucoup de qualité, beaucoup de bon goût. C'est des classiques du design et on veut se placer à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on pense à faire des objets comme ça promotionnels qui vont montrer aux gens regardez, c'est des formes parfaites et le bois, l'objet va vraiment l'exprimer.
On en vient encore une fois au côté artisan, je trouve. Cool.
Ouais.
Est-ce que...
Bon, oui, vas-y. Je vais y aller, hein. j'ai un bois à couper.
Mais justement, pour conclure, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé, ou une question que tu aurais voulu que je te pose que je ne t'ai pas posée ?
Je trouve que tes questions sont incroyablement parfaites. C'est vraiment super. C'est une interview formidable.
Merci.
Non, c'est vraiment très intéressant. J'espère que dans notre échange, les gens pourront apprendre quelque chose. Ouais.
En tout cas, moi, j'ai appris des choses. C'est déjà ça.
Une chose que je pourrais peut-être parler, c'est le côté... j'ai quitté la France en 2008. Et donc, j'ai vécu 7 ans en Thaïlande. 8 ans, je crois, aux États-Unis, près de Boston, et maintenant 2 ans en Espagne. Et le truc dont on pourrait parler, c'est à quel point ça m'a aidé aussi à avoir du succès, de quitter la France et de un peu d'être influencé par le côté américain aussi. Et le côté international, tu vois ce que je veux dire ? Le côté français, on a beaucoup de mal, ce que je dis souvent, on a beaucoup de mal à se promouvoir soi-même. On est un petit peu humble, trop humble. Et les Américains, c'est tac-tac, super efficace, ils n'hésitent pas à se vendre. Je pense que ça a dû me modifier mon propre tempérament, le fait de partir de France, le fait d'être dans une autre culture qui permet d'être, d'avoir plus de succès.
Et c'est tu dirais que c'est une des variables qui fait qu'aujourd'hui Streamline est aussi est-ce qu'il est ?
Oui. L'environnement te change. Je pense que si tu transposes dans un endroit, si tu dis je vais aller vivre en Thaïlande ou au Brésil ou aux États-Unis ou en Russie, où tu veux, après quelques années, tu sais que ça va t'influencer, ça va te changer. Et par exemple, les États-Unis, les Américains sont quand même très doués pour... C'est inné, quoi, le sens du marketing, de la promotion et tout ça.
C'est amazing.
Yes, c'est le meilleur set du monde. tu vois, j'ai pas trop de problème
à le dire.
Ouais. Et les Français en général, ça serait mal vu.
C'est culturellement, comment dire, c'est tu te la pètes un peu, quoi.
Ouais, c'est ça. On est très humble, ouais.
Mais j'en profite, je mettrai dans la description un podcast qui m'a beaucoup aidé à préparer cette émission, c'est ton passage chez Indie Maker qui m'a pas mal aidé, où tu parles beaucoup, en fait, plus de l'indépendance et de comment tu as réussi à travailler comme ça, à partir d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, et comment ça t'a aidé. Je pense que c'est un très bon complément parce qu'on se concentre beaucoup plus sur le design dans ce podcast-là, mais dans l'autre, tu parles beaucoup plus un peu de toute la partie indépendance et de comment ça t'a aidé. Tu devais me recommander une personne à inviter dans le podcast, ça serait qui ?
En français ou en anglais ?
On est plus francophone sur le podcast.
Ah, j'ai pas beaucoup de contacts, tu vois, c'est triste. Attends, en français.
Mais après, je peux comprendre.
Je connais. Ouais. En français, je vois pas trop, ça m'échappe là. Je saurais pas trop de recommander. J'ai très peu de contacts avec des designers français.
Aucun problème.
Désolé.
Pas de souci. Et pour finir, est-ce que tu aurais par exemple des ressources à nous recommander, que ce soit sur le design d'icônes ou que ce soit sur le design en général ? Ou au-delà d'ailleurs ?
Waouh ! Là, je sais pas trop. Hein. En termes de design, je trouve que la communauté Figma maintenant a des choses super sympas. Ils ont énormément développé ça. Personnellement, j'utilise beaucoup. Et puis, c'est au cœur de Figma. Tout le monde travaille avec ça. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien ? Il y a Spline qui est vachement bien pour faire de la 3D. C'est un peu le Figma pour la 3D. Spline, un autre mot, on dit en français Spline, qui est très bien.
Je mettrai le lien dans la description. C'est vrai que le logiciel est hyper simple à utiliser pour faire de la 3D.
Ouais. Mais honnêtement, en ce moment, je suis au niveau des ressources. Je me plonge dans tout l'univers du design, de l'histoire du design, du 20e siècle, des objets, des trucs scandinaves et tout. Et je trouve que ça m'influence beaucoup plus que d'aller chercher des ressources un peu sur des sites web. De sortir, en fait, et de bouquiner et de voir les classiques du design. Et tu t'aperçois qu'il y a des sacrés points communs avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.
Ouais, c'est clair. Mais je sais que des fois, dans le podcast, quand on parle d'objets physiques, je suis là toujours à me dire, ouais, ça met une perspective sur le travail numérique. Et en même temps, tu te dis, mais en fait, on est identique, on a la même réflexion, mais en fait, ça s'applique à d'autres matières, d'autres écosystèmes. Et je trouve ça très, très inspirant et très rafraîchissant.
Tout à fait. Ouais.
Dernière petite question pour toi, Vincent. S'il y a des gens qui veulent discuter avec toi, est-ce qu'on les renvoie sur X ? Est-ce qu'on les renvoie sur LinkedIn, ailleurs ?
Je suis sur Twitter encore. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu utilises de plus, toi ?
Moi, j'utilise vachement LinkedIn, surtout pour le podcast, d'accord. Mais sinon, je suis sur Twitter.
Twitter, et j'étais super impressionné. LinkedIn, pour moi, c'est le truc que j'avais jamais réussi à me désinscrire. Il m'envoyait des messages, c'était complètement... ça me semblait corporate à fond et ringard. Et sur ces derniers mois, je suis impressionné de voir à quel point il y a des discussions super intéressantes sur LinkedIn. Donc, je pense que je vais m'y mettre aussi.
Ouais, et puis sais que
c'est une vraie communauté. Hein.
Ouais, et puis ils essayent vraiment de mettre en avant ça. Maintenant, je sais que tu peux faire des articles communautaires. Je ne vais encore pas trop fouiller. Mais ils essayent justement d'émuler ce truc un peu de communauté et de remonter un peu ce qui marche par affinité pour pouvoir justement matcher avec tes attentes. Vincent,
merci.
Merci à toi. Je voulais te remercier pour ton temps, pour tout ce que tu nous as expliqué. Je trouve ça trop chouette. J'ai appris plein de choses. Merci beaucoup.
C'était une grande conversation. C'est comme si je parlais avec un copain. Et il manquait juste une petite bière.
J'avoue. Ça sera pour une prochaine fois quand je serai en Espagne ou que tu seras en France. En tout cas, merci beaucoup et puis à très bientôt.
Merci encore. Au revoir.
Salut.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, alors n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. Tu peux également en profiter pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Tu peux enfin t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée et activer les rappels pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode pour pouvoir l'écouter. Allez, on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel épisode. Salut !